L'espérance, c'est normalement ce que l'on n'a pas. À partir de cette espérance, on vit en pensant qu'on l'aura peut-être un jour. A priori, cela n'a pas une très bonne image dans notre société, parce que l'espérance, c'est un petit peu ce qu'on dit aux gens, espère toujours, et puis par là-dessus, boit de l'eau fraîche. Autrement dit, comment savoir ce que l'on peut espérer? Et est-ce que vraiment l'espérance ne serait que l'espoir que les choses s'arrangent matériellement, ce qui n'est évidemment pas vrai, puisque globalement nous sommes tous plus ou moins condamnés à mort. Alors l'espérance n'est pas l'espoir, l'espérance est donc une vertu spirituelle, une vertu d'un autre ordre. Et comment peut-on l'interpréter à partir de notre texte de la Bible? Ça peut d'abord avoir un rapport avec le salut. En effet, c'est certainement comme cela que la plupart des gens entendent cette notion d'espérance. C'est de dire que nous sommes aujourd'hui dans un monde de souffrance, mais on pense que dans l'autre monde, quand on sera mort et ressuscité dans le paradis, là, on aura une sorte de récompense. C'est d'ailleurs l'interprétation que l'on peut faire, par exemple, des béatitudes. Quand le Christ dit « Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés », heureux les pauvres, car ils hériteront du royaume de Dieu. On peut effectivement l'entendre comme ça. L'espérance, c'est pour l'autre monde. Donc pour l'instant, vous êtes malheureux, vous souffrez, mais ayez confiance en Dieu. Dans l'autre monde, dans le paradis, vous serez dans la paix, dans le bonheur, dans la joie, et Dieu comblera tous ces malheurs que vous avez vécus par des sortes de compensations spirituelles extraordinaires. Et donc toutes les promesses de l'Évangile concerneraient l'autre monde. Pour tout vous dire, je n'aime pas du tout cette théologie-là. Parce que, je ne sais pas, moi j'ai besoin de choses concrètes et l'idée uniquement de parier sur une sorte de récompense dans un autre monde, personnellement, ne me motive pas. Et donc je ne suis pas du tout un bon client pour le pari de Pascal, qui d'ailleurs n'a jamais converti personne entre nous. Et par ailleurs, dans l'Évangile, j'entends la plupart des promesses qui sont faites comme des choses qui ont une conséquence dès aujourd'hui, ici-bas. Je pense qu'effectivement, déjà ici-bas sur terre, il y a moyen de faire un petit peu son paradis ou son enfer. C'est-à-dire que la façon avec laquelle nous vivons aujourd'hui a des conséquences sur notre vie, aujourd'hui et maintenant. Et c'est comme cela d'ailleurs que je comprends dans Matthieu, toutes ces menaces un petit peu compliquées. Quand souvent Matthieu dit, vous savez, si vous agissez comme ça, vous souffrirez dans la géhenne et dans le feu, etc. Je ne crois pas une minute au châtiment éternel ou aux punitions de Dieu, parce que je ne crois pas que Dieu punisse, pour tout vous dire. Je crois que tous ces récits de punition, ce sont en fait des récits qui expriment la conséquence. Et effectivement, je pense que si aujourd'hui, si quelqu'un vit dans la haine et dans l'égoïsme, eh bien, il s'attire sur sa vie dès ici-bas une vie de malheur, de haine et d'égoïsme. Et je crois effectivement que celui qui apprend à aimer, à pardonner, à partager, eh bien, il peut trouver dans cette vie, par là même, un vrai bonheur, une vraie joie, une vraie harmonie. Et d'ailleurs, souvent, en particulier dans l'évangile de Jean, le Christ ne dit pas « vous serez heureux plus tard dans l'autre monde », mais quand il montre cet exemple de service avec le lavement des pieds, et il dit « si vous savez cela, vous êtes heureux pourvu que vous le mettiez en pratique ». Et c'est donc pas « vous serez heureux dans l'autre monde parce que Dieu vous récompensera », mais si vous savez être serviteur, alors vous êtes heureux. Et donc je crois que effectivement, ces récits ne sont pas des menaces, c'est simplement pour dire dans la vie, il y a un enjeu et que notre façon de vivre entraîne pour nous certainement de la joie ou de la peine, entraîne pour nous de l'harmonie ou au contraire de la violence intérieure. Par conséquent, cette idée d'une espérance pour l'autre monde ne me convient pas. Alors comment comprendre cette importance de l'espérance, avec en particulier cette définition qui est faite en Hébreux 11, la foi est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles que l'on ne voit pas. Eh bien, ça peut être la solution. L'auteur de l'Épître aux Hébreux dit, Le sujet de l'espérance, c'est ce que l'on ne voit pas. Et Paul dira la même chose dans sa lettre aux Romains, au chapitre 8. L'espérance, ça concerne ce que l'on ne voit pas. Ce que l'on voit, peut-on l'espérer encore? Ce que l'on voit, on l'a, on ne l'espère pas. Et donc, il y a l'idée que l'espérance concerne les choses que l'on ne voit pas. Alors, une solution pourrait être de dire ce que l'on ne voit pas. Ce n'est pas nécessairement ce qui viendra plus tard. Ce peut être toutes les choses qui sont de l'ordre du spirituel, tout ce qui n'est pas matériel. Parce qu'en effet, la base de notre foi, je pense, c'est de dire qu'il y a certes dans le monde des choses visibles, mais qu'il y a aussi des choses invisibles. Et comme le dit le Petit Prince très justement, l'essentiel est invisible pour les yeux. Et donc il y a des choses qui sont invisibles, des choses qu'on ne voit pas. Et je pense que la démarche spirituelle, ça consiste à apprendre à essayer de se tourner vers l'invisible. C'est d'ailleurs la base, je pense, de la plupart des religions, même les religions de l'Inde. Vous savez, avec les femmes qui se gravent un troisième œil sur le front, c'est justement pour dire « je veux apprendre à voir l'invisible, à voir au-delà des apparences ». Et ça, c'est essentiel. Paul lui-même dira dans la deuxième lettre aux Corinthiens, « Pour nous, nous regardons non pas aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, parce que les choses visibles sont pour un temps et les invisibles sont éternelles. » Et donc, l'espérance, c'est ça. C'est peut-être l'art de regarder l'invisible, d'apprendre à s'attacher à l'invisible. Et l'invisible, c'est l'amour, la paix, la fraternité, le don, le pardon, la grâce, toutes ces valeurs qui ne sont pas matérielles, parce qu'on ne peut pas les peser, on ne peut pas les compter, on ne peut pas en faire des paquets, on ne peut pas les acheter, on ne peut pas les vendre. Ce n'est pas coté en bourse. Mais pourtant, tout cela, ce sont des valeurs essentielles, fondamentales. C'est pourquoi également, dans les grandes confessions de foi, il y a quelque chose d'essentiel. On dit « Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur, des choses visibles et invisibles. » Eh bien, l'invisible, c'est peut-être justement ce domaine du spirituel. Et l'espérance, c'est de compter là-dessus. De dire « Moi, je compte sur l'invisible. » Et d'ailleurs, le mot « elpis », l'espérance en grec, dans l'Ancien Testament, ça traduit le mot hébreu batar qui veut dire mettre sa confiance en quelque chose. Et d'ailleurs dans les psaumes, souvent cette notion existe et suivant les traductions, on ne sait pas s'il faut traduire par espère en Dieu ou met ta confiance en Dieu. Espérer et mettre sa confiance dans quelque chose, c'est le même mot dans la langue de la Bible. Et donc l'espérance, c'est aussi la confiance. Et l'espérance chrétienne, c'est de mettre sa confiance dans les valeurs spirituelles, de compter sur l'invisible, de tourner son regard vers justement ce qui est non matérialiste, de tourner son regard vers ce qui est essentiel et qui peut donner du sens à notre vie, qui peut nous donner justement du bonheur et de l'harmonie. Et je pense effectivement que c'est, comme dit Paul, en espérance que nous sommes sauvés. Parce que c'est cette espérance qui nous sauve. Parce que précisément, qu'est-ce qui sera sauvé de nous après la mort? Eh bien, c'est cette dimension de l'invisible. Notre corps pourrira dans quelques cimetières, ça n'a pas grande importance. Notre vie éternelle, elle sera faite de tout cette dimension invisible d'amour, de partage, de confiance, de don, de gratuité. Et chaque fois que notre vie s'élève au-dessus des pâquerettes, je dirais, eh bien, tout ce qui s'élève au-dessus des pâquerettes est au-delà du matériel et ne peut pas être touché par la mort matérielle. C'est donc bien en espérance que nous sommes sauvés, c'est-à-dire que nous sommes sauvés précisément par cette dimension de l'invisible dans notre existence à laquelle nous nous attachons. Il ne reste, l'invisible n'est que nécessaire spirituel et c'est la seule chose qui restera. Bon, j'étais content de ma petite interprétation des choses, mais je ne suis pas sûr que ça aille au bout de la question. Parce que je trouve quand même, quand je regarde avec honnêteté les textes bibliques, en particulier en Romains 8, la notion d'attente. Et on le trouve aussi dans la première occurrence du mot « elpis », l'espérance, dans l'Ancien Testament. la première occurrence qui se trouve en Deutéronome 24, quand il est dit « Tu n'opprimeras pas le mercenaire, le pauvre et l'indigent, tu lui donneras le salaire de sa journée avant le coucher du soleil, car il est pauvre et c'est vers cela qu'il met son espérance », c'est-à-dire vers ce salaire qu'il attend à la fin de sa journée. Et donc je ne sais pas si j'ai été vraiment honnête en évacuant totalement la notion d'attente et la notion de que l'espérance est aussi quelque chose pour plus tard et pas pour tout de suite, c'est-à-dire cette notion temporelle, je dirais, de l'espérance. Donc peut-être qu'il faut que je révise ma position. Peut-être que ma première solution était trop optimiste. En effet, quand je dis « on peut trouver le bonheur dans notre vie, et si nous savons aimer, pardonner, alors nous sommes heureux », c'est vrai, mais est-ce vraiment possible? Eh bien, pas totalement. Pas totalement parce que nous ne sommes jamais vraiment capables d'aimer parfaitement. Et même si notre joie est en Dieu, nous ne pouvons jamais mettre notre cœur entièrement en Dieu. Et donc finalement, oui, si nous étions capables d'aimer totalement, de pardonner totalement, de toujours offrir, recevoir, accueillir, tout comprendre, alors nous serions heureux. Mais qui peut faire ça? Qui sera heureux? Et si le salut, c'est de tourner ses yeux vers l'invisible, qui sera sauvé? Personne, en fait. Parce que tout cela, nous l'expérimentons un peu. Oui, l'Évangile dit... Parole du Christ, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Je le sais moi-même que j'éprouve un grand bonheur quand je sais aimer, quand je sais partager, pardonner. Mais pourtant, ma vie n'est pas entièrement don, entièrement partage, entièrement pardon. Et par conséquent, tout cela, je ne le vis qu'en partie, en quelque sorte. Tout simplement parce que le royaume de Dieu ne peut pas s'accomplir parfaitement sur la terre. Et pourtant... Ce que j'ai dit quand même au début n'est pas faux. C'est vrai quand même que certainement notre façon de vivre entraîne pour nous joie ou peine. Et donc c'est en partie vrai, mais pas totalement. Mais donc c'est quand même un petit peu vrai. Et on a donc un petit peu de bonheur, de joie, d'harmonie à aimer, à pardonner. Mais je dirais pas en plénitude et cela n'est pas entièrement réalisé. Alors peut-être que l'espérance, c'est de dire, eh bien... Par cette expérience que j'ai dans ma vie, je saisis là quelque chose d'important. J'ai des sortes de flashs, je vois fugacement l'invisible, et en fait, je sais que ça existe, et donc je pense que cela, je l'aurai en plénitude plus tard. Parce que, comme le dit Paul aussi en 1 Corinthiens 15, 9, il dit « Si c'est seulement dans cette vie que nous espérons en Christ, alors nous sommes les plus malheureux de tous les hommes ». Parce que dans cette vie, oui, j'ai un peu de bonheur à donner, à pardonner, mais finalement, si ce n'était qu'en cela, ma vie ne serait pas grand-chose. Et donc, en fait, il faut probablement faire un peu un mixte des deux solutions que j'ai proposées. Et de dire, l'espérance, c'est de prendre en considération quelque chose que j'ai un petit peu, mais que je n'ai pas encore pleinement, mais quelque chose sur lequel je compte. Quelque chose dont j'ai, en quelque sorte, les prémices. Ah, ça c'est ce mot qu'on trouve justement en Romains 8, où Paul dit, je suis très attaché à cela, il dit, nous avons les prémices de l'esprit. En français moderne, on dirait, j'ai un échantillon. J'ai un petit échantillon de l'esprit. Oui, c'est ça. Par la foi, j'ai un petit échantillon de l'esprit, j'ai un petit échantillon de bonheur, de paix, d'harmonie, et ces prémices... simplement sont un échantillon qui me montre que cette réalité existe. Et donc je peux mettre ma confiance là-dedans, et par ces prémices de l'esprit que j'ai, eh bien j'arrive à savoir qu'il y a là quelque chose de beau, de bon, que j'aime, auquel je veux m'attacher, et que je veux rechercher de tout mon cœur. Donc je ne l'ai pas entièrement, mais le fait que je le vois un petit peu, comme si on tirait un rideau, et derrière j'ai vu quelque chose d'extraordinaire. Donc je sais que ça existe. Et du coup, je peux m'attacher à cela. Et c'est peut-être ça, l'espérance. Je le vois, j'en ai un petit peu, pas entièrement, mais je veux compter là-dessus. Et j'ai déjà expliqué aux enfants à Noël une illustration de cette image, une illustration que j'aime énormément, qui est l'image de l'étoile dans le ciel. Quand on est dans la nuit, on peut croire que tout est nuit. qu'on est dans le noir, dans le sombre, dans la mort, dans le désespoir. Et voilà que le berger qui est dans la nuit, il voit une étoile. Cette étoile produit infiniment peu de lumière. Ça ne l'éclaire pas vraiment, mais il voit l'étoile, et par l'étoile, il n'a plus peur de la nuit. Et par l'étoile, il sait que la lumière existe. Et il se dit, il n'y a donc pas que de la nuit, il y a de la lumière. Il n'y a pas que de la tristesse, il y a du bonheur, il y a de la joie possible. Oui, en moi, ça n'est pas plénitude, mais je sais que ça existe. Et le berger, il va tourner son regard vers l'étoile, et il va pouvoir vivre justement d'espérance, en disant, moi, bien que je sois environné de noir, je ne crois pas dans la nuit. Ce en quoi je crois, c'est dans la lumière. Et cette étoile, elle est en plus l'annonciatrice du jour qui vient naître et qui va arriver. Et donc le berger qui voit l'étoile du berger, eh bien il sait qu'à la fois la lumière existe, que la nuit est appelée à disparaître et que cette lumière va pouvoir se révéler en plénitude. Et c'est pour lui une chose absolument extraordinaire. Donc c'est cela, mettre sa confiance, c'est le même mot que l'espérance, je vous l'ai dit, dans cette petite lumière, savoir que cette petite lumière montre que la grande lumière existe, en faire la base de sa vie, et savoir que tout cela est finalement fondamental. Donc nous ne sommes pas entièrement dans la joie, on en a une petite partie, mais cette petite partie peut nous montrer que cela existe, et nous pouvons mettre notre confiance là-dedans, et penser que c'est ça la vraie réalité vers laquelle on veut tendre. Et c'est là qu'intervient la foi. La foi, l'espérance, je vous l'ai dit, c'est la vision fugace de quelque chose, et la foi, eh bien, c'est de l'ordre de la décision, disent les vieux théologiens. La foi, c'est la décision de dire, cette lumière fugace, cette espérance comme une petite flamme qui brille, eh bien, je veux l'apprendre pour en faire la base de ma vie. Et la foi, c'est ça, c'est le fondement. C'est ce que dit l'Épître aux Hébreux. La foi, c'est la ferme assurance des choses que l'on espère. Le terme grec là-dessus, c'est hypostasis. Et l'hypostasis, c'est le fondement, c'est la fondation, c'est la base. Et donc la foi, c'est la fondation des choses que l'on espère. La foi, c'est de choisir, de prendre comme fondation, comme fondement, ce que j'espère, c'est-à-dire ce que j'ai entrevu fugacement comme une réalité de vie et de lumière. Prendre cette vision fugace comme base pour construire sa vie, pour se poser dessus, pour comme fondement de vérité, d'une vérité vraie et durable. Et donc la foi, c'est de savoir sur quoi l'on veut construire. La foi, c'est la ferme assurance. C'est la fondation des choses que l'on espère. Et donc, il ne faut pas se tromper de foi. Savoir qu'est-ce que l'on choisit, qu'est-ce que l'on croit vrai, fondamental, pour construire dessus. Et la foi qui sauve, c'est de mettre sa foi dans son espérance. De mettre sa foi dans la confiance de ce que l'on croit essentiel et éternel. C'est-à-dire dans cette réalité invisible, dans cette réalité spirituelle, qui est en même temps ce royaume de demain que nous espérons voir venir. De même, le Christ dira au début de son ministère, « Le royaume de Dieu s'est approché. » Donc il est là en fait, mais en même temps il n'est pas là en plénitude, on l'aperçoit. Comme le Christ, dont on nous dit qu'il est le Messie, mais en même temps dans le Messie nous devrions avoir la réalisation de tout, avoir la paix, le bonheur, la joie, l'accomplissement de toutes les promesses de Dieu. Mais dans le Christ nous avons les prémices de ces accomplissements. Nous ne sommes pas dans la plénitude des temps messianiques, nous en avons des traces, mais tout n'est pas absolument accompli, dirais-je. C'est comme si on l'avait en germe, en quitte, pas en plénitude, et à la fois en le pressant, ça ne nous est pas étranger, je sais que ça existe, mais je ne l'ai pas entièrement, mais je veux croire là-dedans. Autre exemple qui m'est cher, qui m'amuse beaucoup, vous savez, les spécialistes de la psychologie familiale parlent de ce que l'on appelle la famille Ricoré. C'est cette image de la famille idéale avec monsieur et madame heureux en train de prendre le petit déjeuner, les petits-enfants beaux et blonds, joyeux, bien élevés, obéissants. Tout est dans une harmonie extraordinaire, un beau temps, une belle campagne. Et les psychologues de la famille disent la famille Ricoret, ça n'existe pas. Eh bien, je ne veux pas tomber justement dans cette vision défaitiste. Et je dis non, c'est vrai, ça, une famille, c'est jamais comme ça tout le temps, mais la famille Ricoret, ça existe de temps en temps. Et dans une famille, il y a des moments de bonheur comme ça, où tout à coup, il y a une sorte d'harmonie. C'est très fugace, mais une sorte d'harmonie extraordinaire, des moments où tout à coup, il y a quelque chose qui est beau, qui est bon, qui est vrai, qui est juste. Eh bien, ces choses-là, il faut les garder comme des trésors et accrocher sa vie dessus. Eh bien, moi, je crois dans la famille Ricoret. Mais ce n'est pas toujours comme ça, c'est vrai, mais c'est là-dedans que je crois. Et ces moments de famille Ricoret, c'est ce qui me donne foi dans la famille. C'est ce qui me donne confiance dans ma vie. Et dans la vie, c'est pareil. Il y a des tas de moments pénibles, douloureux, qui ne donnent pas envie de vivre. Mais il y a parfois des moments de belles choses, des étincelles de bonheur, de lumière, de fraternité, d'amour, de tendresse. Eh bien, la foi, c'est de dire « je veux construire là-dessus ». Ces moments-là, ce sont des accroches auxquelles je veux accrocher ma vie comme on accroche un rideau aux anneaux qui le suspend. Et il en suffit de quelques-uns pour que le rideau tienne. Eh bien, l'espérance, c'est cette vision, et la foi, c'est de vouloir justement s'accrocher à cela. Voir, effectivement, comme un verre à demi-plein ou un verre à demi-vide, eh bien, la foi, c'est de dire « je veux regarder ce verre à demi-plein » parce que par ce verre à demi-plein, je sais qu'il existe quelque chose que l'on peut mettre dans le verre. Et je sais, par ce verre à demi-plein, même s'il n'est pas rempli à ras-bord, je sais que le bon vin existe. Et donc, j'ai confiance. Je sais que le bonheur existe et je peux construire là-dessus, je peux compter là-dessus. Tout le reste, laissez-le de côté. Ça va pour la poubelle, c'est la décharge. La GN, c'était la décharge de Jérusalem. Tout ce qui ne vaut rien, on le jette. On ne va pas non plus se prendre la tête, je dirais, pour nos ordures. C'est l'image également du pressoir. Image biblique essentielle qui intervient sans arrêt dans la Bible, même dans les endroits les plus inattendus. Puisque le pressoir, ça se dit gat, et le pressoir à huile, ça se dit en hébreu « Gethsémané ». Voilà. « Gethsémané », ça veut dire le pressoir à huile. Et Jésus meurt au lieu du pressoir à huile. Et la pierre qui roule pour servir de pressoir, en hébreu, ça se dit « Galilée », « Gilgal ». C'est une pierre qu'on roule, c'est la pierre du pressoir. Donc ce pressoir, il est partout dans la Bible. Et ce pressoir, c'est ça. On prend le tout venant, on le met dans une cuve, on presse, et il sort un bon jus extraordinaire. Bon, le reste... Bon, écoutez, le reste, faites-en ce que vous en voulez, vous le mettez ailleurs dans un tas de fumier, un machin, ça ne m'intéresse pas. Mais tournez-vous vers le bon jus. Et la foi, c'est ça, c'est pas de garder son nez dans les ordures, c'est de garder son nez dans le bon vin qui sera tiré du pressoir. C'est une démarche, je dirais, personnelle, une démarche fondamentale, qui d'ailleurs se trouve ailleurs partout dans le Nouveau Testament, avec l'idée de la moisson. On garde le bon grain et puis la paille, on la brûle, on la jette, c'est pas grave. Mais le fait qu'il y ait quelques bons grains qui poussent justifie tout le reste. La parabole du semeur elle-même, le fait qu'il y ait un grain qui en produit 100 000 quelque part, justifie le fait que le semeur en ait semé partout des grains qui aient été perdus et qui n'aient servi à rien. La tentation, c'est de vouloir n'avoir que du bon. Et ça, c'est extrêmement dangereux. Parce que si on se dit qu'on voudrait que dans notre vie il n'y ait que du bon, que du bonheur, que de l'harmonie, que de la joie, on risque de tout perdre d'un coup. On risque de tout arracher. C'est la parabole du bon grain et de l'ivraie. Il y a du bon grain qui pousse, il y a de l'ivraie qui pousse au milieu, et le diable nous dit « on va enlever l'ivraie pour ne garder que le bon grain ». Et Dieu dit « mais faites pas ça malheureux, vous allez tout arracher, il ne restera plus rien. Allez, laissez pousser les deux, puis vous récolterez le bon grain ». Puis l'ivraie, vous la laissez de côté. Et donc, il ne faut pas vouloir en demander trop, je dirais. Il faut accepter d'être dans un monde mélangé où le bien est mélangé avec le mal et accepter que le salut, nous ne l'ayons pas en plénitude aujourd'hui. Il y a donc un paradoxe, vous disais-je. Je vous ai dit, le paradis, c'est dès aujourd'hui. C'est en partie vrai et en partie pas vrai. C'est en partie vrai parce que aujourd'hui, je fais certainement mon bonheur ou mon malheur, mais que la joie promise par le Christ, elle n'est pas que pour l'autre monde, c'est vrai aussi. Mais en même temps, cette joie, je ne l'ai qu'en partie. Et donc, quand nous serons en Dieu, cette joie je l'aurai en plénitude, parce que tout le reste sera jeté au feu. Alors du coup, pourquoi vivre? Eh bien, pour plusieurs raisons. D'abord, pour transformer le monde. Parce que ma vie aujourd'hui, c'est ce qui me permet d'agir dans ce monde, et Dieu veut que nous soyons des ouvriers dans ce monde. Et donc, s'il vous plaît, pas de tir au flanc. Nous pouvons travailler dans ce monde, et nous pouvons travailler tant que nous sommes en vie. Et donc, aujourd'hui, Dieu a besoin de vous pour travailler dans la vigne. Ne tirez pas au flanc. Travaillez, même si le travail est dur, eh bien, nous travaillons pour essayer de faire en sorte que ce monde soit meilleur et que le royaume de Dieu s'approche de ce monde. C'est une grande mission qui nous est donnée et donc il faut la faire. Pourquoi vivre? Parce que, je viens de vous le dire aussi dans la parabole de l'ivraie, on ne peut pas tout arracher avant l'heure, sinon on arrache tout, mais même le bien et le mal. C'est-à-dire qu'il faut laisser les choses grandir jusqu'à leur maturité et il ne faut pas couper le blé en herbe, sinon on n'a tout rien, on n'a plus rien. La vie doit aller, je dirais, jusqu'à son terme. Le berger qui voit l'étoile dans la nuit, il doit attendre sagement que le jour vienne. Il ne peut pas précipiter les choses. Il ne peut pas faire non plus comme s'il faisait déjà jour. Il doit faire preuve de patience. Ah, et peut-être que la patience est encore une autre vertu à laquelle je suis très attaché. Mot souvent présenté dans le Nouveau Testament comme une valeur infiniment évangélique. La patience, vertu fondamentale, parce que seule la patience peut permettre au jour d'advenir. Et c'est par la patience que le berger verra arriver la plénitude du jour. Si le berger est impatient, il restera à l'étoile qui ne lui produira aucune lumière. Et donc oui, c'est la patience qui permet, je dirais, d'accéder à ce royaume qui nous est promis. La foi, vous disais-je, c'est, nous dit l'Épître aux Hébreux, c'est la démonstration des choses que l'on ne voit pas. Démonstration, j'aime ce mot aussi, elenkos, c'est un mot grec très utilisé après, qui est le fait de pointer du doigt. Voilà, je montre là quelque chose. Ça peut être une chose bonne ou une chose mauvaise, mais c'est la démonstration, effectivement. La foi, c'est donc, vous disais-je, de montrer cette petite lumière, prémisse d'une grande réalité dans laquelle on croit, pour soi et pour les autres. La foi, c'est donc aussi, vous disais-je, de pointer l'invisible, l'invisible pour les yeux qui est essentiel, de pointer le spirituel. La foi, c'est d'exprimer l'invisible, le faire voir, l'exposer, le mettre au premier plan, le montrer, dire que pour moi c'est invisible, il est essentiel. Cette foi, c'est donc le choix intellectuel de savoir en quoi l'on croit. L'amour, le pardon, la paix, le service, l'humilité, la grâce. La foi, c'est s'attacher à cet invisible, le rendre présent dans sa vie, ne pas l'oublier, le mettre en lumière. Et ces choses invisibles, c'est essentiel, vous disais-je, ne nous sont pas entièrement étrangers. On en a les prémices dans l'espérance, c'est aussi ce que l'on attend et c'est ce que l'on veut garder pour l'avenir, pour l'éternité, c'est ce que l'on emportera avec nous et c'est ce que nous gardons également, cet invisible de ceux qui sont morts et qui nous ont précédés. Et c'est également ce que nous pensons qui est tellement essentiel que c'est ça qui constituera notre vie éternelle. Et c'est dans cette foi dans notre espérance qui nous sauve, comme dit Paul. Alors le fait de s'accrocher à cette vérité de vie nous tire vers la vie, comme le naufragé qui voit une planche qui flotte et qui décide de s'y accrocher, comme l'alpiniste qui est perdu dans une montagne et qui voit arriver le point unique du crochet du sauveteur qui vient en hélicoptère et qui décide de s'accrocher au crochet pour être sauvé. C'est ce point de lumière qui nous ouvre sur un autre monde de lumière et qui est tel que si on tourne ses yeux vers cette lumière, toute notre vie bascule dans la lumière, dans la vie et dans le salut. C'est cela l'espérance et c'est dans cette espérance des choses invisibles que nous sommes invités à mettre notre confiance. Oui, vraiment, la foi, c'est la ferme assurance, la fondation de ces choses que l'on espère, c'est une démonstration, un pointage du doigt de ces choses que l'on ne voit pas. Amen.